On vous amène à la découverte d'une pépinière de plantes. On s'envole aussi pour Rangiroa pour parler tri des déchets. Et puis on vous parle d'un sujet difficile, SOS Suicide Alerte sur l'augmentation du nombre de passages à l'acte. Le journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Damien, bonjour à toutes et à tous.
Ce vendredi, c'est jour d'inauguration à Paea.
Oui, avec ce matin le lancement de la deuxième phase du projet Raahu Tahiti de l'ILM. Après un an de travail, l'Institut Louis Malardet, au travers de son laboratoire des substances naturelles et médicinales, a présenté sa pépinière. Ce projet, porté de manière transversale par la direction de la santé, mais aussi par la direction de l'agriculture, ambitionne bien sûr de créer du lien entre la science et les pratiques médicinales des anciens, mais pas seulement. Il s'inscrit aussi dans une dynamique de transmission. On écoute les précisions du responsable du laboratoire.
J'ai beaucoup de jeunes autour de moi, ils voient du tatahiara dans le jardin, ils ne savent pas ce que c'est. Ils prennent la débroussailleuse et ils dégomment le tatahiara. Or, c'est une plante qui a eu une valeur. Cette valeur est complètement perdue aujourd'hui. On considère que c'est pour beaucoup de la brousse. Et moi, je rêve que ces plantes retournent dans nos jardins, la place qu'elles avaient, ne serait-ce qu'à la génération de mes grands-parents.
Édouard Suaz au micro de Vaille Thierry Pereire. Alors au total, la pépinière créée il y a maintenant un an rassemble 50 des 100 espèces végétales locales recensées et reconnues pour leurs vertus thérapeutiques. Aujourd'hui, l'ILM dit maîtriser leur cycle de reproduction et l'Institut va pouvoir entamer ses recherches. Écoutez.
Alors la phase suivante, ça sera de les mettre au laboratoire pour faire des extractions sur ces plantes et voir dans nos extraits quels sont les composés que l'on retrouve présents dans ces plantes. Et on a, à l'Institut Malardet, investi dans du matériel de haute performance pour pouvoir réaliser ce type de travaux.
Voilà, et à noter enfin qu'en parallèle de ce travail sur les Raahu de Tahiti, le laboratoire continue toujours son programme d'études sur le cannabis thérapeutique.
On va maintenant à Rangi qui se met au tri.
Et oui, il y avait déjà quelques bacs de tri sur le grand atoll des Tuamotu, mais le système était peu utilisé et pour cause, la commune n'avait pas de moyens d'exporter les déchets triés. Bouteilles et flacons en plastique, canettes en aluminium, boîtes de conserve, que faire de ces matières valorisables? Eh bien, les confier au syndicat Fenuama, c'est chose faite depuis une convention signée mercredi par le Tavana de Rangiroa, Tahuhu Maraerua et les responsables du syndicat Fenuama. Écoutez.
Nous avons signé enfin une convention qui permet à la commune de Rangiroa, Tikau, Mataiva et Makatea de rapatrier leurs déchets jusqu'au port de Papeete, puis les équipes Fenuama vont les prendre en charge. Donc c'est les bouteilles en plastique, les canettes et les conserves qui vont pouvoir disparaître de ces îles.
Benoît Lahir, le directeur de Fenuama, qui a donc signé cette convention en compagnie du président du syndicat, Jules Yenfa, en 2023. Une douzaine d'îlots de Tahiti et Moorea ont pratiqué le tri. La plus exemplaire reste Rimatara, qui a envoyé à Fenuama pas moins de 6 tonnes de déchets triés en 2023, malgré ses 800 habitants. Au total, le syndicat traite un peu plus de 260 tonnes de déchets triés venant des communes non adhérentes. Les communes de Tahiti et Moorea, à l'exception de Faa, qui ne pratiquent pas le tri, en produisent près de 8000 tonnes à l'année. S'ajoute à ça les 53 000 tonnes de bacs gris déposés à Paihoro. Un chiffre en baisse, le COT avait connu son pic d'activité en 2007 et vit depuis au rythme de l'économie. Écoutez.
La première crise économique, nous l'avons parfaitement ressentie puisque nous avons eu une baisse de 15 à 20% de la production de déchets. Puis depuis 2011, malgré le Covid, nous avions une certaine stabilité qui tournait autour de 50 000 tonnes de déchets. Et depuis 2022, nous constatons une baisse qui est de 3 à 5% par an sur l'exercice 22 et 23. Donc très certainement que nous voyons là les effets de l'inflation, de la crise économique. Les gens consomment moins de produits, donc jettent moins de produits. C'est plutôt bien parce que ça préserve les installations et c'est toujours dans l'esprit de la réduction des déchets. Sauf que c'est une réduction des déchets qui ne semble pas liée à l'environnement, mais liée plutôt à la situation économique.
Voilà, Benoît Lahir, le directeur de Fenuama, qui était l'invité de la rédaction cette semaine. Vous pouvez retrouver toute l'interview sur notre page Facebook.
Un nouveau procureur général pour la cour d'appel de Papeete.
Frédéric Benet Chambellan, c'est le nom de ce futur procureur général. Actuellement titulaire du poste en métropole à Rennes, il devrait ainsi remplacer Thomas Pison, en poste depuis 2017, qui quitte ses fonctions le 1er août. Formé à Sciences Po Paris et à l'École nationale de la magistrature, Frédéric Benet Chambellan a exercé à Lyon, à Paris, à Rouen, avant d'être nommé dans la capitale bretonne en 2021. Thomas Pison en parle comme d'un homme travailleur et rigoureux.
On ouvre un sujet difficile puisque la Polynésie semble connaître ces derniers temps une vague de suicides.
Une vague à laquelle le président Brotherson notamment a fait écho sur sa page Facebook cette semaine. Annie Tuehava, la présidente de SOS Suicide, note effectivement une recrudescence des passages à l'acte et des appels à l'aide. Mais elle alerte aussi sur un fait en particulier. De plus en plus de jeunes adolescents ont des idées suicidaires, souvent en lien avec leur milieu familial difficile. Il y a une vague en ce moment, en effet, on n'a jamais vu ça en 20 ans d'existence de l'association, c'est une première. Dit-elle. La présidente de SOS Suicide au Fénois qui constate une forte augmentation des appels ces derniers mois ainsi qu'une augmentation des suicides depuis novembre dernier. On est dépassé par les événements, voilà ce qu'elle dit encore. On peut dire qu'à 80% les causes du suicide sont sentimentales et ces personnes qui sont parties trop tôt ne nous ont pas appelées. Ça peut arriver n'importe quand, n'importe où et à n'importe qui, note-t-elle aussi. Elle estime que les réseaux sociaux n'aident pas, le mal-être des jeunes et une nouvelle source d'inquiétude pour SOS Suicide, nous dit Annie Tuehava, c'est l'âge des personnes en difficulté. Elle est alertée de plus en plus souvent par des conseillers principaux d'éducation et les infirmières des établissements scolaires.
C'est vraiment énorme ce que la population de jeunes subit. Peut-être aujourd'hui, il faut dire aussi que les réseaux sociaux n'aident pas. C'est immédiat. Ce qui m'inquiète le plus, c'est l'âge. De plus en plus, il y a les jeunes de 12-13 ans qui pensent au suicide aujourd'hui. Ça, c'est nouveau. Avant, c'était les ados. Les 12-13 ans n'appellent pas. C'est souvent le CPE des collèges, des lycées, des infirmières qui nous demandent « on a besoin que vous passiez rencontrer nos élèves ». Pour en parler.
Et elle note que beaucoup de ces très jeunes adolescents sont issus de milieux familiaux difficiles.
Il faut aussi dire, souligner par rapport aux jeunes de 12-13 ans, c'est la vie, le foyer familial souvent. Lorsque c'est des parents qui se disputent, ils vivent ça au quotidien. Et les jeunes 10, 11, 12 ans grandissent dans cette ambiance et ça ne les aide pas du tout à un développement normal sur le plan mental.
SOS Suicide intervient donc fréquemment dans les collèges et les lycées pour informer sur les comportements et les signes qui doivent alerter l'entourage et aussi pour aider ceux qui restent à accepter le départ de leurs copains. Lorsque nous avons parlé à Annie Tuehava, elle était sur le point de rencontrer des élèves d'Aroué. L'association se rendra bientôt à Taha, aux Marquises et aux Australes. SOS Suicide est joignable à tout moment au numéro à 6 chiffres 444 767 depuis un poste fixe. L'appel est gratuit ou au 87 89 20 25 23.
On vous parle maintenant d'une course solidaire.
La Runfrat, la course de la fraternité chrétienne des handicapés, fait son retour demain à la mission. Trois courses et une marche sont au programme de la troisième édition à partir de 16h15. Après avoir réuni 60 coureurs en 2019, puis 120 l'an passé, la fraternité chrétienne espère en rassembler 200. Les deux premières courses sont pour les jeunes, 1 et 2 km, tandis que la course adulte fait 4 km, elle sera plus vallonnée. Alors, outre l'importance de parler du handicap, les bénéfices récoltés seront au profit des personnes en situation de handicap, justement, ils sont près de 150 à bénéficier de l'aide de l'association. Les fonds de la course serviront notamment à leur acheter du matériel sportif adapté, mais aussi à financer des déplacements, dont un en métropole pour une compétition en mai. On écoute Thomas Monroc, kiné de la Fraternité chrétienne des handicapés. Il était l'invité de la rédaction ce matin.
On a 7 jeunes qui vont participer aux Jeux de l'avenir. Donc c'est une compétition qui se déroule tous les 2 ans en France. Donc cette année, c'est à Saint-Brieuc du 8 au 12 mai. Donc là, on va envoyer 7 jeunes. En 2019, il y avait une première délégation qui était partie. C'était la première fois. Ils avaient ramené une médaille d'or, une médaille d'argent. Donc là, on espère faire aussi bien. On l'a mieux préparé. Cette année, depuis le début de l'année, il y a les jeunes qui s'entraînent tous les mercredis après-midi.
Voilà, ils s'entraînent dur ces jeunes sur les disciplines que sont la pétanque adaptée, le tricyclisme, la sarbacane, le tennis de table et le tir sportif. Autre projet cette année, l'envoi d'une autre délégation de 7 jeunes également pour assister à certaines épreuves des Jeux Paralympiques de Paris 2024. Ils pourront voir des disciplines qu'ils pratiquent ici et vont donc pouvoir un peu découvrir le haut niveau, voilà ce que nous dit le kiné. Si vous voulez donc les soutenir et vous dépenser un peu, la Runfrat, c'est demain le formulaire d'inscription sur notre site radio1.pf.
En sport toujours, la cérémonie des Haïto Tualo a eu lieu hier soir.
15 catégories étaient à l'honneur de la deuxième édition de cette cérémonie de récompense organisée par le COPF. Et ce sont le triathlon et la natation qui ont particulièrement brillé, avec notamment 3 prix pour les nageurs, Espoir Fille pour Deoti Vido, Espoir Garçon pour Teahui Rohotu et l'entraîneur pour Sylvain Roux. Côté triathlon, 2 prix pour Benjamin Zorniotti, athlète élite homme et équipe mixte avec Salomé Debarthez. De son côté, la rameuse Iloa Echen remporte le prix élite femme, tandis que la sélection masculine de tennis de table et le le duo de chasse sous-marine Teina Horse et Onyx Le Billan repartent avec les prix d'équipe.
Et il y a aussi du foot ce soir.
Pirée contre Tefana, c'est à 20h au Stade Pater. C'est un match important puisque c'est le match retour du barrage qualificatif pour la Ligue des Champions d'Océanie. Les deux équipes n'avaient pas su se départager en début de semaine au match aller, un but partout. La compétition aura lieu en mai à Tahiti et vous l'avez compris, une seule donc de ces deux équipes représentera le Fénois face à sept autres représentants de clubs océaniens. A noter également en sport ce week-end, le marathon Polynésie la première va, c'est demain matin à Veireilles, avec en parallèle la première journée des Jeux traditionnels. Ce sera toujours à Veireilles à suivre à partir de 8h30. Voilà, c'est la fin de cette édition de la mi-journée. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous avec l'actualité, c'est bien sûr le Flash et c'est à 16h.